Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, quatrième épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec saint Thomas d'Aquin et la question « Le théologien a-t-il un corps ?» Dans les années d'anniversaire autour de celui que l'on appelle le docteur commun, l'ordre dominicain a fait circuler en France ses reliques, notamment son crâne. Un crâne vide, bien sûr, sans cerveau, sans pensée à nous communiquer. Quel est le sens d'une telle démarche? Ne faut-il pas aller vers l'œuvre plutôt que vers l'os? Thomas d'Aquin nous est connu par son corpus, non par son corps. Et c'est ce corpus littéraire qui compte, avant tout. Pourtant, ce corpus lui-même contient un article qui légitime l'honneur rendu aux reliques des saints, et il insiste sur le corps. Non seulement sur le fait que notre élévation spirituelle s'appuie sur notre connaissance sensible, mais sur l'évidence que le christianisme est une religion de l'incarnation. Écoutons donc Thomas à travers la lecture complète d'un article de la Somme de théologie. Si les reliques des saints doivent être adorées de quelque manière.
Il est d'abord vu qu'on ne doit d'aucune manière adorer les reliques des saints. Premièrement, on ne doit rien faire qui puisse être occasion d'erreur. Or, adorer les restes des morts semble se rattacher à l'erreur des païens, qui rendait un culte aux défunts. Deuxièmement, il est stupide de vénérer un objet insensible, ce que sont pourtant les restes des saints. Troisièmement, un corps mort n'est pas de la même espèce que le corps vivant. Il n'est donc pas numériquement le même. Il apparaît donc qu'après la mort d'un saint, on ne doit pas adorer son corps. En sens contraire, on lit dans le livre des dogmes ecclésiastiques « Nous croyons que l'on doit sincèrement, très sincèrement, honorer les corps des saints et principalement les restes des bienheureux martyrs comme s'ils étaient les membres du Christ. » Et plus loin, si quelqu'un contredit cette doctrine, il n'est pas chrétien, mais sectateur de Nomius et de Vigilantius. Je réponds en disant que saint Augustin écrit « Si les vêtements et l'anneau d'un père sont d'autant plus chers aux enfants qu'ils l'aiment davantage, on ne doit aucunement mépriser les corps qui nous sont encore beaucoup plus familiers et intimement unis que les vêtements que nous portons. Ils se rattachent en effet à la nature même de l'homme. Il est clair que celui qui aime quelqu'un vénère après sa mort ce qui reste de lui, non seulement son corps et des parties de son corps, mais aussi des objets extérieurs comme des vêtements. Il est donc évident que nous devons avoir de la vénération pour les saints de Dieu, qui sont les membres du Christ, les fils et les amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de lui. Il est donc évident aussi que nous devons, en souvenir d'eux, vénérer dignement tout ce qu'ils nous ont laissé, et principalement leurs corps, qui furent les temples et les organes du Saint-Esprit habitant et agissant en eux, et qui doivent être configurés au corps du Christ par la résurrection glorieuse. C'est pourquoi Dieu lui-même glorifie comme il convient leurs reliques par les miracles qu'il opère en leur présence. Le motif invoqué dans la première objection vient de Vigilantius. Il est rapporté par saint Jérôme dans le livre qu'il a écrit contre lui. Je cite « C'est un rite presque païen que nous voyons s'introduire sous prétexte de religion. Ils adorent en la baisant je ne sais quelle poussière enfermée dans un petit vase enveloppé dans un linge précieux. » Contre quoi Jérôme écrit « Nous n'adorons pas les reliques des saints, ni non plus le soleil, la lune, ni les anges d'une adoration de latrie, mais nous honorons les reliques des martyrs afin d'adorer celui dont ils sont les martyrs. Nous honorons les serviteurs afin que l'honneur rendu à ceux-ci rejaillisse sur le Seigneur. » Ainsi donc, en honorant les reliques des saints, nous ne tomberons pas dans l'erreur des païens qui rendaient aux morts un culte d'adoration. Deuxièmement, Nous n'adorons pas ce corps insensible pour lui-même, mais à cause de l'âme qui lui fut unie et qui jouit maintenant de Dieu, et à cause de Dieu, dont l'âme et le corps furent les serviteurs. Troisièmement, le corps mort d'un saint n'est pas identique numériquement à son corps vivant, lequel avait une forme différente, l'âme. Mais il est le même par identité de matière, laquelle sera de nouveau unie à l'âme, sa forme.
Fabrice Hadjadj, il est clair que celui qui aime quelqu'un vénère après sa mort ce qui reste de lui. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors là encore, il faut situer cet article à l'intérieur de la Somme de théologie, parce qu'on pourrait dire, tiens, ce texte sur le culte des reliques pourrait se trouver dans le traité de la religion. Après tout, c'est un acte de religion, etc. Et pas du tout. On n'est pas dans la segunda segunde, comme on dit, on est dans la tertia pars. Donc, dans ce qui concerne spécialement l'incarnation, et on est dans la question qui a trait à l'adoration que nous devons au Christ. Donc en fait, la question, c'est d'abord l'adoration du Christ. Il faut voir que c'est là que ça advient. Donc cette situation, la question est très importante. La question est celle d'adorer le Christ. Et forcément, adorer le Christ, c'est adorer quelqu'un qui est venu dans la chair, donc adorer aussi une chair, adorer aussi un corps. Alors ici, il est important de faire une première remarque. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de bien distinguer entre vénérer et adorer. Et dans le texte, on voit le mot vénérer, honorer, et parfois même adorer les reliques. C'est comme ça qu'il est employé, adorer en quelque manière. Il faut savoir qu'à l'époque de Thomas, le mot d'adoration n'est pas aussi réservé qu'on le fait aujourd'hui. C'est un usage qui vient plutôt du XVIIe siècle. Parce que le mot adorer, alors en latin étymologiquement, ça veut dire porter la main à la bouche peut-être, je ne sais pas si c'est, voilà, en tout cas, mais ça traduit le fait de se prosterner surtout. C'est la proskunèse, voilà, en grec, hein, donc on se prosterne devant. Et où on fléchit le genou, où on, voilà. Donc ce terme, bon, ça peut valoir pour des tas de choses, et c'est pas complètement réservé. En revanche, il y a une distinction entre le culte de l'atrie et le culte de dulie. C'est ça. Désormais, le culte de l'atrie qu'on ne doit qu'à Dieu, et si on l'attribue à une créature, on tombe dans l'idolâtrie, justement. Donc c'est à cela qu'on a réservé après le terme adoré, et puis le culte de dulie qu'on doit au saint, et éventuellement au saint à travers les reliques. Voilà, voilà, c'est ça qui s'appelle désormais culte de Dulie et vénération pour nous. Donc il faut faire attention ici, le mot adorer n'est pas pris dans ce sens strict. Donc l'enjeu ici, c'est toujours l'adoration du Christ, et qu'est-ce que ça veut dire adorer le Christ ? Et adorer le Christ, c'est aller jusqu'à, finalement, aller vers un culte des ossements, des restes d'un corps mort. Pratique qui non seulement ressemble à une pratique païenne, et on pourrait dire ça se ressemble beaucoup. C'est-à-dire comment être sûr ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ça, c'est du côté de l'intention, du côté de l'environnement peut-être, de l'atmosphère religieuse, mais en même temps, voilà, vous avez des ossements, est-ce que c'est pas pareil ? Mais là encore, vous voyez, c'est cette image que je prends toujours, hein, même si c'est la peau d'Ésaü, la voix est celle de Jacob. C'est plus pareil, hein, voir ce qu'il y a derrière. Et de l'autre côté, on pourrait dire, mais quand même, l'essentiel de la vie de foi, c'est spirituel, c'est pas du côté des ossements. Et c'est le deuxième argument, hein, très fort, vous êtes face à un objet insensible. La vénération concerne la vie et pas la mort. En plus, on sait très bien ce qu'il en est du relique, du trafic des reliques, etc. Ça a été la position protestante. Les traités contre le culte des reliques qu'on trouve chez Calvin, qu'on trouvera aussi chez Luther, c'est typique, vous voyez, d'une posture protestante. Et si on doit Maintenant, revenir à un contexte encore plus particulier, c'est-à-dire le corps de Thomas d'Aquin. Il y a eu des conflits autour de ces reliques. Puisque Thomas d'Aquin va mourir alors qu'il se rend au concile de Lyon, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il meurt en chemin à Fossa Nova, là où il y a un monastère cistercien, si je ne me trompe. Or, il a déjà une très grande réputation de sainteté, Thomas. Donc, il va mourir dans ce monastère et les cisterciens vont s'arroger le corps mort de Thomas. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, avoir le corps d'un saint, c'est avoir le nœud de tout un réseau de routes, de transports, puisque les gens vont venir en pèlerinage. Il y a beaucoup d'endroits où il y avait des grandes foires, où il y avait aussi le culte d'un saint, vous avez les reliques d'un saint, c'était super, parce qu'on venait les gens venaient pour le pèlerinage, pour faire du commerce. Pourquoi est-ce que les Vénitiens vont aller voler le corps de Saint-Marc? Parce que, voilà, c'est après Venise, au lieu de commerce maritime, voilà, a son saint, on a son saint, voilà, c'est très très bien. Et donc les cisterciens vont garder le corps. Et le père abbé va dire, oui mais Thomas d'Aquin, puisqu'il a voulu mourir ici en fait, avec cette idée, vous savez, que les saints anticipent leur lieu de leur mort, etc., voulait qu'il soit chez nous, qu'il soit à nous. Et il va y avoir une querelle pendant plus de 100 ans pour que les Dominicains puissent récupérer le corps de Thomas. Et il sera rendu après une décision du pape, mais après des conflits, des procès. On tient à ce corps. Alors on pourrait dire, mais c'est dérisoire. Comment comprendre une telle folie, en fait, autour du corps des saints et toutes les dérives qui s'en suivent et toutes les manipulations qu'ils peuvent avoir et qu'ont, bien sûr, abondamment dénoncé les grands écrivains réformateurs.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui, le théologien a-t-il un corps ? Fabrice Hadjadj, ma première question serait une question de méthode. Nous sommes dans une somme de théologie. Pourquoi est-ce que Thomas d'Aquin n'argumente pas à partir des Écritures ? Il y a l'exemple des ossements d'Élisée, il y a l'exemple du manteau de Pierre ou de son ombre même dans les Actes des Apôtres. Pourquoi n'argumente-t-il pas du tout à partir des Écritures ?
Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut se souvenir que la somme de théologie est un ouvrage pour débutants. C'est ce qu'il dit, et qu'il suit l'ordre des raisons, et qu'il veut sortir des discussions trop compliquées. Donc, les articles de la Somme, comme celui-ci, tracent les grandes lignes d'objection. Deuxième chose, les Écritures sont à l'arrière-plan et sont présentes. Ici, avant les Écritures, bien sûr, il y a la coutume, bien sûr, de l'Église. Mais le fait même qu'il cite deux pères, savoir Saint Jérôme et Saint Augustin. D'ailleurs, cette phrase respondeo dicendo, c'est-à-dire je réponds en disant que Saint Augustin, donc je réponds avec Saint Augustin. Voilà, il y a quand même cet arrière-plan, donc toute la tradition patristique qui s'appuie sur les Écritures. Et puis, le livre, ce qu'on appelle le livre des dogmes ecclésiastiques, mais en fait qui est un recueil, comme aujourd'hui ce qu'on appelle l'Enchiridium Symbolorum, le Denzinger à l'époque, voilà, dit attention, si celui qui dit qu'on ne doit pas honorer les corps des saints, voilà, il y en a un qui dit ça, eh bien qu'il soit anathème, il n'est pas chrétien, mais sectateur de tel ou tel hérétique ou dissident. Donc, on ne peut pas dire que l'Écriture ne soit pas là. Mais ce qui est, à mon avis, formidable dans ce texte, c'est le fait que cette affirmation à laquelle on pourrait trouver des fondements scripturaires, ce qui intéresse Thomas d'Aquin, c'est une affirmation en fait anthropologique. C'est qu'est-ce que ça nous dit de ce qu'est l'homme et de ce qu'est le corps de l'homme. Et on pourrait dire, voilà, ce qui est important, c'est l'âme, c'est pas le corps. Non, l'âme, c'est toujours l'âme d'un corps, de ce corps. Et ensuite, le fait, il y a cette affirmation que je trouve extraordinaire, le fait que Dieu, ce qui a été serviteur de Dieu dans cette vie, c'est pas seulement l'âme, c'est l'âme et le corps. Quand Thomas d'Aquin, par exemple, pose la question de savoir si la prière doit être vocale, bien sûr que la prière est un acte du cœur, mais le fait qu'elle devienne vocale, qu'elle passe par la voix, par le corps, par des gestes du corps, qu'est-ce que dira Thomas d'Aquin ? Il dit mais ça, c'est ce que peut l'homme, que ne peuvent pas les anges. Donc justement, faire du corps, voir dans le corps ce qui rend le service propre, proprement humain à Dieu, le culte de Dieu proprement humain, c'est une chose absolument formidable. C'est une autre vision du corps. C'est cette sorte de transfiguration dans la vision du corps qui s'opère. Et puis, de l'autre côté, vous avez cet autre passage extraordinaire qui reprend Augustin. Les corps des saints, et ça, c'est une citation des Écritures, parce que derrière, votre corps est le temple de l'esprit, c'est du Paul. Donc, les corps des saints furent les temples et les organes du Saint-Esprit habitant et agissant en eux. Donc, ce n'est pas simplement parce que les corps sont appelés à la résurrection glorieuse qui vient après, mais c'est d'abord le fait que l'Esprit agit dans le corps, que le corps est temple de l'Esprit, et donc que l'Esprit, cet esprit typiquement biblique, hein, qui plane au-dessus des eaux, au commencement de la Genèse, donc qui n'est pas loin de la matière, où les eaux, la matière n'est pas ce qui vient par dégradation et par éloignement progressif de l'esprit, comme chez les Grecs, comme chez les Platoniciens. Non, il y a cet esprit qui est proche, qui est presque immédiatement, hein, qui plane au-dessus des eaux, de la matière informe même, qui aime cette matière. Et qui va tirer d'elle toutes les merveilles du monde. Et là, dans l'ordre surnaturel, maintenant, pas simplement celui de la création, mais celui de la rédemption, et encore une fois, on voit l'esprit qui est dans le corps, qui est proche du corps. Et donc, c'est le corps qui est la pierre vivante, qui est le temple, qui est... Et c'est ce dont nous sommes appelés à nous souvenir dans le culte des reliques. Alors bien sûr, ces reliques sont à la fois des restes, ce qui reste d'une œuvre qui n'est plus là, mais en tant que reste, ce sont des signes qui font signe vers à la fois l'état actuel des saints auprès de Dieu, mais aussi vers toute l'œuvre qu'ils ont fait de leur vivant. Et donc la question c'est, et toi, qui t'as jeûné, que fais-tu de ton corps ? Voilà, que fais-tu de ton corps ? Est-ce que tu fais de ton corps, justement, l'organe de l'esprit ?
Nous avons d'ailleurs ici à la cathédrale de Fribourg trois reliquaires côte à côte qui représentent trois mains différentes de trois saints de Fribourg. La main de Saint-Nicolas de Myre qui bénit, la main de Saint-Nicolas de Flux qui prie et la main de Saint-Pierre Canisius qui écrit et donc qui montre à chaque fois comment cet organe, le même à chaque fois, a servi d'une manière différente à l'œuvre de Dieu.
Trois reliquaires de trois époques différentes, ouais. De Nicolas et Pierre Canisius, qui était ce jésuite éducateur, effectivement, pour ça qu'on le met en train d'écrire, et qui finalement, oui, quand on est face à ces reliquaires, à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, on est face à cette question, voilà, que fais-tu de tes mains ? Que fais-tu, toi, de tes mains ? Est-ce que tu es en train de bénir ? Est-ce que tu es en train de prier ? Et est-ce que tu es en train d'essayer de transmettre la vérité, d'être un éducateur ?
Fabrice Adjage, nous avions eu avant l'été une émission sur la question des icônes. Est-ce qu'il y a un lien entre le culte des icônes et le culte des reliques ?
Oui, qui est cette glorification du sensible. Ça, c'est ça qui est absolument remarquable. On a parlé dans l'émission précédente d'abord du geste de Thomas lorsqu'il avait une question difficile à résoudre. On n'en a pas parlé d'ailleurs. Vraiment, on a parlé de la prière comme acte de raison, mais le fait qu'il mettait sa tête contre le tabernacle. Il y a même certains textes qui traduisent « mettait sa tête dans le tabernacle ». Donc voilà, bon. Donc, il ouvrait le tabernacle, il mettait la tête dedans. Il collait son front au ciboire, et là, comme s'il croyait, lui, pas plus rationnel que Thomas d'Aquin, avec je ne sais quelle transmission par contact magique du corps du Verbe incarné sous les espèces de l'hostie, avec son crâne, son cerveau, son voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? Mais ce geste qu'on pourrait rapporter finalement chez un grand saint à quelque chose qui relève de la piété populaire. Donc quelque chose, on pourrait dire, ouais, c'est vrai. Mais en fait, il y a une très grande, très profonde théologie derrière ça. C'est que Dieu a voulu nous sauver, non pas simplement par une modalité purement spirituelle, mais en se faisant l'un de nous, en prenant chair et d'une certaine façon par mode de contact avec l'humanité, à travers des touchés du Christ, comme l'hémorroïs qui m'a touché, voilà. Et on voit bien que l'acte de foi et l'acte, cette femme, hein, tu vas dire la foi, parce qu'elle l'a touché avec un désir, et en croyant qu'il pouvait la guérir, bien sûr qu'on n'est pas en train de dire c'est mécanique, c'est de la pure charnelle, mais cette dimension de foi doit aussi rentrer et passe par le corps, par la chair. Donc, dans les icônes, on avait vu que c'était insensible, mais insensible très particulier, puisque les icônes sont écrites et que ce n'est pas des portraits, c'est plutôt des signes visibles de la parole de Dieu. Mais parce que Dieu a pris un visage, nous pouvons désormais non pas transgresser le commandement qui dit de ne pas faire d'image, mais l'accomplir d'une manière très, très singulière, où toutes les images désormais, d'une certaine façon, se renvoie elle-même à ce qui est invisible. Voilà, c'est ça l'icône, c'est le principe de l'icône. C'est pas de dire tu ne vas pas faire d'image parce que tu crains l'idolâtrie, c'est que désormais toutes les images peuvent briser l'idolâtrie en devenant, comme les icônes, des signes de l'invisible. Et alors on voit bien qu'on est dans ce lieu typiquement chrétien où plus c'est spirituel, bien plus c'est charnel aussi. Où tout le sensible est mis à contribution pour notre élévation vers Dieu. Et là, jusqu'à cette chose qui, il faut l'avouer, hein, a un caractère apparemment, et pas seulement apparemment, un caractère qui est quand même un peu morbide. Bon, moi, il se trouve que j'ai... Enfin, on va finir là-dessus, on va finir sur du concret... Il m'a été demandé à deux reprises d'enseigner à côté du crâne de Thomas d'Aquin dans l'année 2024 et peut-être 2023 déjà. Et donc il y avait le crâne et puis c'était moi le cerveau et je devais moi le cerveau parler de la vie dont il ne reste que ce crâne. Et donc, je vais toujours faire ce passage de l'os à l'œuvre et de l'œuvre à l'os. Mais quand on se retrouve devant la chose, donc on a un beau reliquaire bleu qui a été fait par un artiste que j'affectionne spécialement, Augustin Frison-Roche. Et donc, il y a ce beau reliquaire d'Augustin, et puis Frison-Roche, pas Saint-Augustin, bien sûr. Et dedans, ouais, et à travers cette petite vitre, vous voyez quoi ? Un os, un crâne, quoi. Et c'est quoi ? C'est le crâne le crâne des drapeaux de pirates, hein, la tête de mort. Et c'est quand même une tête de mort. Que l'on voit dans les tableaux avec Saint Jérôme, que l'on voit dans les tableaux avec Marie-Madeleine, que l'on voit... Et donc, ce qui est en jeu ici, bien sûr, c'est aussi de nous rappeler la matérialité de la vie, la fugacité du temps, et bien sûr, de manière extrêmement âpre et dure, la réalité de la mort. Ça, c'est fondamental aussi. Dans le culte des reliques, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas balayer l'aspect morbide. Et souvent, quand on voit ces corps de saints qui sont dans des grandes draperies de soie, avec plein d'ornementations, etc., des bijoux, quand on fait des reliquaires extrêmement sophistiqués, avec beaucoup d'or, où on essaierait de voiler cette rencontre avec l'âpreté de l'os, Mais il faut que ça aille jusqu'à l'os. Il faut qu'on l'ait dans l'os d'une certaine façon. Parce que la méditation sur la vie, et spécialement la méditation sur la résurrection, parce que c'est une religion de l'incarnation, mais de l'incarnation où la chair doit passer par la mort, donc c'est une religion de la résurrection, eh bien, donc implique forcément cette mise en contact avec le squelette, avec la vérité, l'âpreté, la nudité blanche et vide de la mort.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Saint Thomas d'Aquin, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les vendredis à 14h, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.